Ce matin, c'est un duel au soleil qui va se dérouler sous nos yeux ébahis. Dans 1 roi 18, je vous invite à ouvrir vos bibles dans 1 roi 18 et je vais commencer par lire ce chapitre 1 roi 18 à partir du verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole du Seigneur parvint à Élie la troisième année. « Va, parais devant Akab, et j'enverrai de la pluie sur la terre. » Élie s'en alla pour paraître devant Akab. La famine pressait Samarie. Akab fit appeler Abdias, l'intendant de la maison. Or, Abdias craignait beaucoup le Seigneur. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes du Seigneur, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés par 50 dans 2 grottes, et les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays, vers toutes les sources et vers tous les ouèdes. Peut-être y trouvera-t-on de l'herbe, de sorte que nous pourrons garder en vie les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre les bêtes. » Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en chemin, Élie vint à sa rencontre. Abdias le reconnut, tomba face contre terre et dit « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi. Va dire à ton seigneur, j'ai trouvé Élie. » Alors Abdias dit « Quel péché ai-je commis, moi, ton serviteur, pour que tu me livres à Akab et qu'il me fasse mettre à mort ?»« Par la vie du Seigneur, ton Dieu, il n'est ni nation ni royaume où mon seigneur ne t'ait envoyé chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer au royaume ou à la nation en question que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, j'ai trouvé Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, le souffle du Seigneur t'emportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Pourtant, je crains le Seigneur depuis ma jeunesse. Ne t'a-t-on pas rapporté, mon Seigneur, ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes du Seigneur? J'ai caché 100 prophètes du Seigneur par 50 dans 2 grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, j'ai trouvé Élie, il me tuera. Mais Élie dit, par la vie du Seigneur des armées, au service duquel je me tiens, aujourd'hui, je paraîtrai devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit « Est-ce toi qui attire le malheur sur Israël ?» Élie répondit « Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël. Au contraire, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Maintenant, fais rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, avec les 450 prophètes du Baal et les 400 prophètes de l'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. Élie dit au peuple « Je suis resté, moi seul, prophète du Seigneur. Et il y a 450 prophètes du Baal. Que l'on me donne 2 taureaux. Qui se choisissent un taureau, qui le découpent, qui le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit, « D'accord. » Élie dit au prophète du Baal, « Choisissez-vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom du Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'on avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit « Criez à pleine voix, puisqu'il est Dieu. Il doit penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore il est en voyage. » Peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à pleine voix et ils se firent selon leurs règles des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils se mirent à faire les prophètes jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. Mais ils n'eurent ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur qui avait été rasé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur était parvenue en ces termes, « Ton nom sera Israël. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom du Seigneur. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 séa de semences. Il disposa le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit « Faites-le une deuxième fois. » Il le fit une deuxième fois. Il dit « Faites-le une troisième fois. » Il fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. On remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Élie leur dit « Saisissez les prophètes du Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent, et Élie les fit descendre à l'ouest de Kishon, où il les égorgea. Élie dit à Akab « Monte, mange et bois, ce grondement, c'est la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel en se courbant jusqu'à terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur « Monte, je te prie, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, regarda et dit « Il n'y a rien. » 7 fois, Élie lui dit « Retourne. » La 7e fois, il dit « Un petit nuage s'élève de la mer. Il est comme la main d'un homme. » Élie dit « Monte, dira Akab. » Attelle et redescends que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages. Le vent se leva et une forte pluie se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main du Seigneur fut sur Élie, qui passa une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Ce matin, changement de décor. Changement de ton, changement de mission. Au bout de 3 ans et demi de sécheresse, Dieu décide que les choses ont assez duré. Alors il envoie Élie vers Akab pour que la pluie tombe à nouveau. Verset 1, Dieu ordonne un plan simple à Élie. Va voir Akab et je ferai pleuvoir. Élie n'a qu'une seule chose à faire. Allez voir Akab et Dieu fera pleuvoir. On a lu ce qui va se passer par la suite et que c'est un petit peu plus compliqué que ça. On peut comparer les versets 1 des chapitres 17 et 18. Si Élie prend l'initiative de la sécheresse, c'est Dieu qui prend l'initiative de la faire cesser. Au chapitre 17, Élie avait prévenu qu'il n'y aurait pas de pluie à moins d'une parole de sa bouche, à moins que je le demande. Mais ici, c'est Dieu qui cadre, c'est lui qui décide la fin de la sécheresse. Dieu a soutenu l'initiative d'Élie en provoquant la sécheresse, mais c'est Dieu qui contrôle la situation, pas Élie. En tout cas, Élie obéit, et je le souligne, à chaque fois que Dieu demande quelque chose à Élie, il le fait. Élie part vers Akab, mais en chemin, il rencontre Abdias, et c'est à partir de là que les choses se compliquent. Au verset 2b, on commence à nous présenter Abdias. Abdias qui n'est pas l'Abdias dont le livre se trouve entre Amos et Jonas, c'est juste un mec qui a le même prénom. Ce n'est pas un prophète, mais c'est l'intendant, le chef du palais d'Akab. C'est un poste haut placé dans son palais, c'est une sorte de ministre en fait. Et à la première lecture, on pourrait avoir l'impression qu'on nous présente à Abdias comme un lâche. Abdias a peur de prendre position pour Dieu face à Akab. Contrairement à Élie, le prophète courageux qui affronte ouvertement Akab. Mais en fait, il me semble que les choses sont un petit peu plus subtiles que ça. Si Abdias est bien réticent face à Élie, ça ne veut pas forcément dire qu'il est réticent face à Dieu. Mais au contraire, on a avec Abdias une autre manière de servir le Seigneur et que le narrateur en fait nous présente Abdias comme une alternative à Élie. Versets 2 à 6, le narrateur ouvre une parenthèse pour nous présenter Abdias. Il fait un retour en arrière par rapport au temps du récit. Le narrateur nous donne des informations pour pouvoir faire une appréciation du dialogue qui va surgir entre Élie et Abdias. Et ce qui est important de noter, c'est que les informations qui viennent du narrateur sont fiables. Le narrateur nous explique qu'Abdias est quelqu'un de très pieux. Il craint beaucoup le Seigneur. Et cette crainte du Seigneur se traduit très concrètement dans des actes courageux, puisqu'il a caché et nourri 100 prophètes, alors que Jézabel est trucidé. Abdias, ça fait un petit peu penser à tous ces gens qui ont caché des juifs pendant l'occupation allemande. C'est risqué et courageux. D'autant qu'Abdias vit sous le nez d'Akab et de Jézabel. Et nourrir une centaine de gens dans des grottes pendant une famine, ça a dû requérir une petite logistique constante et rusée. C'est pas un petit coup de main qu'Abdias a donné à ses prophètes. Ce qui est intéressant ici, c'est que le narrateur nous fait une évaluation prioritaire à toute action de la part d'Abdias. On nous présente d'abord Abdias et après on le voit en action. C'est le contraire de ce qu'on avait vu avec Élie au chapitre 17, où on entrait directement dans le bain, sans évaluation sur Élie de la part du narrateur. Ce qui nous avait donné peut-être quelques petits doutes à propos d'Élie. Au verset 12 et 13, Abdias redit à peu près la même chose. Je crains le Seigneur depuis ma jeunesse, j'ai caché les prophètes pendant que Jézabel les tuait. Dans la Bible, la répétition, c'est un procédé littéraire très courant qui exprime l'insistance. L'auteur veut vraiment nous braquer les yeux sur la fidélité d'Abdias envers le Seigneur. Mais ce portrait d'Abdias nous donne aussi un autre point de vue sur les conséquences de la sécheresse. Dans le chapitre précédent, on avait vu la sécheresse à travers les yeux d'Élie qui était parti d'Israël. Maintenant, on a un aperçu de ce qui s'est passé en Israël pendant l'absence d'Élie. Versets 4 et 5, c'est Jézabel et Akab qui nous sont présentés comme des personnages pas très jojo. Ils sont présentés en fonction de leurs préoccupations ou de leur hobby, c'est-à-dire la guerre pour Akab et le génocide des prophètes pour Jézabel. Ils sont présentés un petit peu de manière symétrique avec l'utilisation d'un même mot à chaque fois, qui n'apparaît pas ici, c'est pas grave. C'est le terme qui littéralement veut dire couper, trancher. C'est traduit par massacrer et par abattre ici. Akab veut trouver de l'eau pour ne pas avoir à trancher les chevaux, et Jézabel est celle qui a tranché les prophètes. Akab est celui qui préfère nourrir ses bêtes plutôt que son peuple. Et Jézabel, dont on n'avait pas trop entendu parler jusqu'ici, est présentée comme une force meurtrière qui tranche et qui tue les prophètes fidèles à Dieu. Et c'est maintenant qu'on comprend l'ordre qu'avait donné Dieu à Élie de se cacher au chapitre précédent. Alors, petite remarque sur Akab, la sécheresse l'embête bien, parce que ça menace ses chevaux. Ses chevaux, c'est pas pour partir en balade. C'est les chevaux qui tirent, les chars. Donc la sécheresse menace sa puissance militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Akab est vraiment proactif dans cette situation. Et ça nous montre bien sa priorité, comme tous les rois, c'est faire la guerre. Et dans la suite, on va voir que Akab, pour les questions religieuses, il est très passif et il laisse faire, il laisse gérer sa femme. Pour l'instant, il se préoccupe juste de trouver de l'eau pour ses chevaux. Il envoie son serviteur, son ministre Abdias, pour chercher de l'eau. Et quand Abdias est en chemin, tada, Élie vint à sa rencontre. On connaît la suite que j'ai lue, et comme on connaît la suite, on oublie d'être surpris. Mais prenons une petite pause. À ce stade du récit, à quoi est-ce qu'on est censé s'attendre de la rencontre entre Élie et Abdias ? D'un côté, on a Élie, le prophète zélé pour l'Éternel. De l'autre côté, on a Abdias, le serviteur résistant et courageux dans un contexte de persécution. Moi, j'imagine un petit peu que la scène qui se produit, c'est d'un côté, il y a Abdias qui marche, il cherche de l'eau, et il y a Élie qui apparaît en face de lui. Ils se voient, ils se reconnaissent, ils courent l'un vers l'autre, se tendent les bras, s'enlacent et pleurent ensemble à chaudes larmes. Non, c'est pas ça qui va se passer. En fait, ils vont se clasher. Au début, tout va bien. Abdias se précipite, tombe face contre terre, le salue en disant « Mon Seigneur », ce qui est une manière respectueuse de s'adresser à lui. Et lui, droit au buste, lui demande de l'annoncer auprès d'Akab. Mais Abdias est réticent et il s'enflamme dans une longue et surprenante tirade. Mais mettons-nous bien à la place d'Abdias. Regardez bien le dialogue. Là où Abdias dit à Élie « Mon Seigneur », et lui réplique « Va dire à ton Seigneur ». Ça pourrait suggérer que Élie considère que l'allégeance première d'Abdias, c'est Akab et pas Dieu. Ensuite, il lui demande « Va dire à Akab, voici Élie ». Et rappelez-vous que Élie, ça veut dire « Mon Dieu et Yahvé ». Et il y a un double sens. Voici Élie, ça veut aussi dire voici Yahvé et mon Dieu. Devant Akab. Alors ça explique peut-être pas encore entièrement la réticence d'Abdias, mais ça montre qu'il y a un malaise à la base dans le dialogue. Et donc faut être très attentif maintenant à ce que dit Abdias. Et bien essayer de se mettre dans la peau d'Abdias. Si Abdias est réticent, c'est que fondamentalement, il n'a pas confiance en Élie. Il a peur que s'il fait son rapport à Akab, Élie s'enfuit, comme quand il a dit « il y aura la sécheresse ». Il a peur que du coup ça le grille auprès d'Akab. Et Akab, il a utilisé tout son poids politique international pour retrouver Élie. Donc on comprend bien qu'Abdias soit légèrement mal à l'aise dans cette situation. Et c'est à ce moment-là qu'il parle de sa crainte de l'Éternel et de son sauvetage des prophètes. Pourquoi est-ce que tu m'envoies à une mort certaine puisque je crains Dieu? Mais surtout, si je meurs, ce sont aussi les prophètes fidèles de Dieu qui sont menacés. Et pour Abdias, il y a une double menace qui pèse sur les prophètes. La persécution et la sécheresse. Jézabel, elle incarne la première menace. Elle veut zigouiller tous les prophètes de Yahvé. Mais la deuxième menace, du point de vue d'Akab, c'est Élie qui l'incarne, parce que c'est lui qui a provoqué la sécheresse. Et c'est ça, une des ironies du passage, Akab envoie Abdias trouver de l'eau, et Abdias trouve le responsable de la sécheresse. La sécheresse qui d'ailleurs n'a pas dû aider à relâcher la pression de la persécution sur les prophètes de l'Éternel. En fait, Abdias fait presque la leçon à Élie, et le confronte aux conséquences de ce qu'il a provoqué. Alors finalement, Élie prête serment pour rassurer Abdias, et celui-ci obéit, prévient Akab, et tout se passe bien pour Abdias. Ouf ! Et c'est là qu'il y a la deuxième ironie. Abdias, en fait, s'acquitte parfaitement de sa mission auprès d'Akab, c'est-à-dire trouver de l'eau, parce qu'il trouve Élie, dont la mission est de dire à Akab, « Dieu va faire tomber la pluie. » Élie, lui, en prêtant serment, « Je vais aller voir Akab », il fait ce qu'il faut pour que la mission avance. Mais on peut se demander, est-ce qu'il tient compte de ce que Abdias lui dit? Petit spoiler, on a la réponse verset 22. Quand Élie s'adresse à tous les responsables d'Israël, il dit « Je suis resté, moi, seul prophète du Seigneur. » Il y a 450 prophètes du Baal. On verra quelque chose de similaire au chapitre 19. En fait, ce que dit Élie ici, c'est faux. Tout simplement. Il sait qu'il y a au moins Abdias et 100 prophètes qui sont restés fidèles. Et même s'il ne le croit pas, nous on sait que c'est vrai, puisque le narrateur aussi l'a souligné. Alors on peut déjà tirer quelques petites leçons de ce passage. C'est pas parce qu'on est dans le même camp qu'on se fait des bisous et des câlins. C'est dommage, mais c'est comme ça, et il faut faire avec. On nous présente deux hommes intègres avec Dieu, mais deux hommes qui ont des préjugés l'un sur l'autre. Et c'est pour ça que j'aime le cycle d'Élie, c'est qu'on nous montre un portrait honnête de ces hommes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ces deux hommes sont fidèles, mais de manière un petit peu différente, chacun à leur manière. Et bien souvent, on considère, si tu fais différent de moi, par principe, c'est mal. On a l'habitude de se comparer les uns aux autres, remarquer les petites défaillances, les petites faiblesses et les erreurs des autres. Honnêtement, on a facilement l'œil aiguisé pour remarquer quand les autres se plantent. On se sent mieux, on se sent valorisé quand on fait ça, parce que ça nous évite de regarder à nous-mêmes, à nos propres erreurs et péchés. Ça désoriente notre introspection, notre regard sur nous-mêmes. Ce que je suggérerais, c'est pas tellement d'arrêter de remarquer les faits et gestes de nos frères et sœurs, mais plutôt d'aiguiser notre regard dans le bon sens. Observer la foi, observer la piété, observer le bien de quelqu'un, observer la croissance de la foi, la relation avec Dieu, les bonnes œuvres, la façon dont quelqu'un encourage un autre, relève son frère. Si on fait ça, au lieu du plaisir malsain qu'on peut ressentir en voyant quelqu'un se planter, on sera encouragé. On aura envie de suivre un bon exemple, on s'édifiera l'un sur l'autre. L'Église, c'est ça. C'est une bande de bras cassés qui s'entraident et s'entraînent à suivre Jésus. Après Abdias, deuxième rencontre, Élie rencontre Akab. Ça y est, on arrive enfin au moment où Élie fait face à Akab. Et dans ce récit, comme d'habitude, rien ne se passe comme on s'y attendrait. On peut s'attendre à ce que Akab s'empare d'Élie, il lui fasse passer un très mauvais quart d'heure. On pourrait s'attendre à ce qu'Élie dise un truc du style « Ainsi parle le Seigneur, je vais faire tomber la pluie sur le pays et tu sauras que je suis le Dieu, le vrai Dieu vivant. » Ça commence un petit peu comme ça, verset 17. « Akab accuse, est-ce toi qui attire le malheur sur Israël ?» Mais Élie rebondit et il explicite les raisons qui l'ont poussé à provoquer la sécheresse, chapitre 17, verset 1. On se doutait de la raison en fait, hein. Mais maintenant c'est clair et net. C'est parce que Akab a abandonné Dieu pour Baal qu'il a provoqué la sécheresse. Akab accuse Élie de malheur. Élie lui lance une réplique cinglante. C'est celui qui dit qui y est. Il remet Akab face à ses responsabilités et son idolâtrie. Et ensuite, il dit à Akab de convoquer Israël et il lance le concours de celui qui a le vrai Dieu. On a deux surprises. La première, c'est que les choses ne se passent pas tout à fait selon l'ordre de mission de Dieu à Élie, verset 1, en deux étapes assez simples, va voir Akab et je ferai tomber la pluie. Alors, c'est pas vraiment une désobéissance. Dans l'absolu, Élie va trouver Akab et à la fin, la pluie tombe. Mais il y a des petites étapes supplémentaires inattendues entre les deux. Deuxième surprise, Akab. Après la réplique d'Élie, Akab se tait, obéit, et se fait très discret parce qu'on ne le revoit qu'à la toute fin, verset 41. Et à partir du verset 1, c'est la compétition Baal contre Dieu, Élie contre les prophètes de Baal qui commence. Alors on va s'intéresser un petit peu au cadre de la compétition. Ça se passe sur le Mont Carmel. Le Mont Carmel, c'est une montagne qui surplombe la Méditerranée et qui se trouve à peu près entre Israël et le territoire des villes phéniciennes. Ville phénicienne d'où vient Jézabel. C'est le lieu idéal pour faire une compétition Yahvé versus Baal. Il y a trois groupes, Élie, Israël et les prophètes de Baal. Ce verset 19 que les prophètes de Baal sont présentés par Élie d'une manière qui contraste bien avec les propres prophètes persécutés de Dieu. Ce sont ceux qui mangent à la table de Jézabel. Et le repas, c'était le gage ultime de la fraternité. Ça montrait le lien des prophètes avec la royauté. On imagine sans problème que ces prophètes-là étaient probablement peu touchés par la famine. Israël sont les responsables des 10 tribus du royaume du Nord. Ils répondent à la convocation d'Akab et au verset 21, Élie les somme de choisir entre Dieu et Baal. Et Israël ne répond rien. Silence. En fait, il y a un petit jeu avec le verbe répondre. Suite à la réponse silencieuse d'Israël, Élie propose que ce soit le Dieu qui réponde. C'est à ce moment-là qu'Israël accepte les règles du jeu d'Élie. La réponse d'Israël, ce sera la réponse du Dieu qui répondra à son prophète. Élie, lui, il contrôle la situation. Non, il domine la situation. Il est le seul à initier des ordres. Il fixe les règles de la compétition et tout le monde fait ce qu'il dit. Donc cette compétition, elle semble vraiment être l'idée d'Élie. Et on voit bien la mission qu'Élie s'est donnée. Son objectif, c'est qu'Israël se tourne à nouveau vers Dieu et se détourne du Baal. On voit plusieurs détails. Il fait convoquer les responsables d'Israël, il s'adresse à eux, il leur demande de prendre position pour Dieu. Il évoque les racines d'Israël, ce qui a fondé Israël. Au verset 31, il prend 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur était parvenue en ces termes, « Ton nom sera Israël ». C'est intéressant, il prend 12 pierres, il ne prend pas 10 pierres, parce qu'on est dans le royaume d'Israël. Alors, est-ce qu'il espère que si Israël se retourne vers Dieu, il y aura une réunification des 12 tribus? Ce qui est sûr, c'est que la mission d'Élie, c'est de gagner le cœur des Israélites à l'Éternel. Et Élie, quel showman! Verset 21, Élie se met en scène. « Je suis resté le seul fidèle ». Tu sais que c'est faux. Il se présente dans la position seul contre tous, seul contre 450 prophètes. Il se donne même le beau rôle en laissant le meilleur taureau pour les prophètes de Baal. Le taureau le plus susceptible d'attirer l'attention de la divinité. Et quand les prophètes commencent à s'agiter, Élie est un tantinet narquois et taquin. C'est de la moquerie assez gratuite, hein. Criez plus fort! Peut-être qu'il fait caca. En fait, le lieu secret, comme dans certaines traductions, ça pourrait être une manière de parler des toilettes. En fait, c'est pas si gratuit que ça, parce que ça montre bien que Baal est un dieu conçu comme à l'image des hommes. Il va qu'à ses occupations, il ne peut pas tout faire, il n'est pas le dieu transcendant. Et les niveaux 1 ont appris hier ce que voulait dire transcendant. Donc tout le monde doit le savoir. Sa dernière pique, elle tombe encore plus juste. Peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. C'est lourd de sens, parce que le sommeil, c'est la métaphore de la mort. Et dans des textes cananéens sur Baal, la sécheresse coïncide avec le fait que Moth, le dieu de la mort, a emprisonné Baal dans le séjour des morts. Quand Élie a proposé que le dieu réponde par le feu, c'était aussi très réfléchi. Baal, dieu de l'orage, est souvent représenté avec un éclair dans la main. Éclair, c'est le feu divin. Le défi que lance Élie au prophète de Baal est censé être facile. C'est dans les cordes de Baal. Ça rend le silence de Baal encore plus éloquent. Et l'agitation des prophètes contraste bien avec la réponse de Baal. Il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. À l'opposé, quand vient le tour d'Élie, tout ce qu'il fait est lourd de sens. Là où les prophètes s'agitaient et disaient juste « Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous », c'était en se coupant, etc. Bref, j'ai déjà évoqué les 12 pierres, et le geste avec l'eau est intéressant. Alors c'est vrai, Élie est un showman provocateur, mais l'eau, c'est probablement pas juste pour augmenter la difficulté du challenge. Ça a du sens, c'est presque une prédication visuelle. C'est une sorte de mise en abîme de la situation. Le feu de Dieu va descendre pour tout consumer, en particulier l'eau. Le feu de Dieu assèche l'eau. Et c'est bien le signe que c'est Dieu qui a asséché le pays pendant ces 3 ans et demi, comme jugement de l'idolâtrie. La prière aussi d'Élie contraste avec l'agitation des prophètes. Et Dieu répond. Dieu répond par le feu. Et quand le feu tombe, tout le monde tombe sur ses genoux. Et à partir de là, grand nettoyage de printemps sur les rives du Kishon. C'est au tour des prophètes de Jézabel de faire connaissance de plus près avec un couteau. Après ça, Élie dit, versets 41 à 46, Élie dit à Achab, « Bois et mange, secondement, c'est la pluie. » On revient à notre intrigue de départ maintenant, qui était « Va voir Achab et il va pleuvoir. » Et Élie est vraiment sûr de lui. Quand il dit « Bois et mange », ça veut dire que la famine va être finie. Mais il y a un petit suspense. La pluie ne vient pas tout de suite et Élie est obligé de prier cette fois. Élie s'agenouille. Alors pourquoi ce petit délai? Ça pourrait être soit d'une manière positive pour insister sur le rôle d'intercesseur de Élie, mais peut-être que c'est aussi une manière pour Dieu de recadrer un petit peu Élie. Alors maintenant, quelques petites applications qu'on peut tirer de ce texte. C'est à ce moment-là que je cite entièrement le fameux passage de Jacques 5, versets 13 à 18. Je ne vais pas le lire parce qu'on n'a pas le temps, mais regardez un petit peu. On est dans la conclusion de l'épître. Ce passage vient boucler en particulier un certain nombre d'enseignements sur la parole et la prière. Comme par exemple, si vous ne recevez pas de réponse de Dieu, c'est que vous lui demandez mal, que vous ne lui demandez pas, ou vous lui demandez selon vos mauvais désirs. Et Jacques donne ici de bons usages de la parole. La prière est une expression de la foi, et elle cherche le bien de l'autre. Et il prend l'exemple d'Élie comme l'exemple du juste qui a une prière efficace. Demain, je soulignerai le côté obscur d'Élie, et aujourd'hui, je souligne son côté lumineux. C'est un exemple formidable de foi. Dieu répond systématiquement à Élie. Dieu le soutient dans ses initiatives en lui répondant systématiquement. Si Jésus a parlé de foi qui soulevait les montagnes, la foi d'Élie a asséché un pays. Élie n'est pas puissant lui-même, c'est un humain comme les autres. Si Dieu répond à Élie, c'est aussi parce que les demandes d'Élie sont faites sincèrement dans l'objectif que Dieu soit reconnu comme le Dieu vivant. Ce qui est exactement le même objectif qu'au GBU, entre guillemets. C'est pas une démonstration de puissance juste pour faire joli. C'est pas du spectaculaire pour le spectaculaire. Mais il y a un sens aux choses qu'Élie prie. Il lutte de manière intelligente contre Baal. Il utilise les caractéristiques de Baal, la mythologie autour de Baal, pour montrer que Baal n'existe pas, mais au contraire, que Dieu est vivant. C'est presque une démonstration mathématique du vide de Baal. Ça montre aussi qu'Élie connaît contre quoi il lutte. Et s'il connaît contre quoi il lutte, il est pertinent dans le message qu'il apporte. C'est vital dans notre mission de GBUciens de nous intéresser aux autres, pour être pertinent auprès de nos amis. Pas juste pour gagner un débat d'apologétique, d'argument, parce qu'on veut être le plus fort, mais parce qu'on les aime, tout simplement qu'on veut leur apporter l'évangile dont ils ont besoin, même s'ils ne le savent pas. Prier pour la sécheresse en France au 21e siècle ne serait probablement pas pertinent. Mais je sais pas, prier pour une crise économique afin que les gens se rendent compte que l'homme et le système économique qu'il s'est créé n'est pas tout puissant et que ça les pousse à se remettre en question, peut-être que ça a du sens. Après, faut pas avoir peur pour son confort. Bon, on s'en fiche parce qu'on a l'éternité pour ça. Un des objectifs du GBU, c'est de réfléchir à la pertinence de la Bible dans le contexte contemporain. Et je pense que dans le lavage de cerveau, Yo va aborder ça. Autre détail, Jacques utilise l'exemple d'Élie, mais pas de manière christocentrique ou typologique, les niveaux 2 savent ce que ça veut dire. Jésus est parfait. Et ce qui fait tout l'intérêt d'Élie, c'est que Élie est un homme comme les autres, contrairement à Jésus. Ça veut dire qu'à la place d'Élie, on aurait pu faire, vous auriez pu faire la même chose. La foi d'Élie, c'est une foi sensible à la volonté de Dieu. Et si on veut annoncer, vivre l'évangile, qu'on prie dans ce sens, Dieu, il est bon. Il ne va pas nous laisser tomber. Il a envie de nous donner des bonnes choses. C'est lui qui nous envoie en mission auprès des non-chrétiens. Et vous croyez qu'il a envie de nous voir nous planter? Alors non. Non, alors faut pas hésiter à lui demander tous les outils dont on a besoin pour vivre notre métier de chrétien. Souvent, on n'ose pas. On est timide, peut-être qu'on manque d'ambition dans nos prières. Mais si notre ambition, c'est de glorifier Dieu, Dieu y va répondre d'une manière ou d'une autre. C'est sûr et certain. Rappelez-vous, on parle du Dieu créateur qui donne la vie et dont tout être dépend. Alors demandons-lui de bonnes choses. Petit détail intéressant dans ce passage que Jacques mentionne, il mentionne la confession des péchés, les uns aux autres. Alors, les uns aux autres, ça ne veut pas forcément dire au pasteur. Mais ça se fait dans le cadre de relations fraternelles. On confesse nos péchés pour qu'un autre prie pour mes péchés. Je trouve ça très, très intelligent parce que s'il y a un domaine où on manque de foi, c'est bien pour nos propres péchés. Un des problèmes avec le péché, c'est qu'on s'y complaît. Sans se l'avouer, nos péchés nous plaisent bien. On n'a pas tant envie que ça de changer. Mais un ami sincère, lui, il aura beaucoup plus de foi pour nous. Il va combattre, il va prier pour nous. Alors prions sans cesse, mais attention, parce que Dieu pourrait bien nous répondre.